Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir, merci d'être à l'écoute de Radio Foot International en cette soirée de Ligue des Champions, mais une soirée de Ligue des Champions un peu tronquée puisque Dortmund-Monaco a été reporté ce soir. Le bus des joueurs du Borussia ayant été attaqué, la confrontation de Ligue des Champions a été simplement annulée, alors qu'un joueur des jaunes et noirs, l'Espagnol Marc Bartra, a été blessé. Apparemment, cette blessure ne serait pas trop grave. Nous retrouverons d'ici quelques minutes Cédric De Oliveira, l'envoyé spécial du RFI qui devait suivre cette confrontation et qui nous racontera un peu ce qui s'est passé dans ce stade du Westfalen Stadium de Dortmund. Et puis nous retrouverons aussi Pascal Thibault du côté de Berlin pour savoir ce que disent les premiers éléments de l'enquête. Nous aurons aussi des réactions recueillies par Cédric De Oliveira. Un seul match dans cette soirée de Ligue des Champions, un match de football. Et quel match ! Une très belle victoire de la Juventus de Turin ce soir et une nouvelle déroute du Barça. Les Blaugrana se sont inclinés à Turin sur le score de 3-0. Et nous en parlerons avec Matteo Cioffi. Un doublé de Paolo Dybala. A-t-on là le successeur de Lionel Messi qui lui a été évidemment à la peine dans son équipe de Barcelone. Invité dans ce studio ce soir pour évoquer tous ces événements footballistiques et autres, eh bien, il y a Nabil Djellit et Patrick Juillard. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Merci d'être ici en notre compagnie puisque je suis avec Eric Chorin. Bonsoir Eric.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Radio Foot, c'est parti.
Hier sind alle Mittel sicher. Über alle neuen Entwicklungen halten wir Sie, halten wir euch auf dem Laufenden, dass jetzt natürlich hier ein bisschen die Informationen schleppen kommt, müssen wir verstehen, wir melden uns sofort wieder, wenn wir etwas Neues haben.
Il n'y a donc pas eu de match du côté de Dortmund, mais dans le stade, eh bien, le speaker a demandé au public, ce que vous avez entendu en allemand, de rester dans le stade, de ne pas paniquer, mais que le match n'aurait pas lieu et que le public donc devait évacuer dans la tranquillité, car il n'y avait pas de danger ni dans le stade ni à l'extérieur et qu'ils pouvaient donc quitter l'enceinte. Et surtout, ils étaient invités a priori, on y reviendra, à venir le lendemain. C'est donc la violence qui, une nouvelle fois, fait incursion dans le monde du football. Ce match qui était très prometteur a donc été annulé à cause d'une attaque contre le bus des joueurs du club allemand. Des engins ont explosé sur le tracé les quelques kilomètres, très peu d'ailleurs, une dizaine de kilomètres qui séparaient l'hôtel où étaient concentrés les joueurs avant le match et puis le stade. Dans les rues de Dortmund, c'était dans le quartier de Ochten où se trouve aussi ce stade d'ailleurs. Alors, pour plus de détails, on va parler avec Cédric De Oliveira, l'envoyé spécial de RFI qui a dû passer une bien drôle de soirée. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Alors évidemment, vous avez suivi de la tribune ce qui se passait. Vous ne pouviez pas savoir ce qui se passait en dehors, mais vous avez été très vite prévenu de ce qui se tramait en fait et que ce match ne commencerait pas à l'heure.
Oui, ça a été une drôle de soirée, ou en tout cas une drôle de fin d'après-midi, le stade se remplissait doucement, en tout cas tranquillement, ce fameux mur jaune qui commençait à se remplir. Il y avait ces supporters là qui attendaient une belle soirée, peut-être beaucoup de buts entre Dortmund et Monaco, et puis soudain, environ une heure et quart avant le coup d'envoi, on a appris qu'il y avait eu une attaque, ou en tout cas à quelques kilomètres du stade, l'ancien Westfalen Stadium, et que c'était le bus de Dortmund qui avait été attaqué. Ensuite, le speaker a dit que le match allait sans doute être reporté et la confirmation est tombée autour de 20h30, heure de Paris. Ça a été un peu la consternation dans le stade. Les supporters ont commencé à siffler, mais ils ont été invités ensuite à revenir demain, puisque le match est reporté, vous le savez maintenant, à 18h45, heure de Paris et de Dortmund. Là, les supporters de Monaco ont scandé Dortmund, Dortmund. Ils ont été applaudis ensuite par l'ensemble du stade, l'ensemble des supporters du Borussia. Et là, l'évacuation du match, l'évacuation du stade, pardon, a commencé dans le calme, puisque ça a été particulièrement bien géré de la part des autorités et du club.
Cédric, il y a toute une mobilisation d'ailleurs autour de ces supporters, parce que évidemment, comme le match est reporté demain, pour ceux qui le pourront, le site notamment, tout à l'heure on citait ce site du BVB qui est à partir d'aujourd'hui en français, a été pris d'assaut, il était un peu bloqué d'ailleurs, mais on appelle à héberger les supporters monégasques.
Oui, effectivement, les 3000 supporters monégasques qui étaient là et qui ont été invités par les supporters du Borussia, en tout cas certains supporters du Borussia, à être hébergés chez eux avec le hashtag BedForAwayFans qui a circulé sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Mais il y aura forcément des supporters qui ne seront pas là, puisqu'il y a une partie, on en a rencontré quelques-uns d'ailleurs, qui sont partis. En tout cas, ils avaient un train de nuit notamment. Ils ont quitté Dortmund et l'Allemagne. Sans doute d'autres demain qui ne pourront pas assister à cette rencontre. Il y a eu quand même cette scène sur Alice que je voulais vous raconter, c'était cet entraînement de la part des joueurs de Monégasque, presque comme si de rien n'était. Ça chantait, ça rigolait et ça contrastait forcément avec ce que sont en train de vivre les supporters, enfin en tout cas les joueurs de Dortmund.
Oui, parce que du côté de Dortmund, justement, on a su grâce aux réseaux sociaux que par exemple Pierre-Emerick Aubameyang avait raconté que lui, il était rentré chez lui avec Dembélé, c'est ça hein.
Oui,
Patrick,
c'est
vu
ça. D'autres joueurs ont fait des déclarations, bon, bien sûr, sur leur état d'esprit, mais je voulais dire également que l'AS Monaco a annoncé que le club prendrait en charge les nuits d'hébergement de leurs supporters ce soir à Dortmund jusqu'à une hauteur de 80 €. Donc, c'est pour peut-être inciter ces gens-là à rester éventuellement si le match avait lieu demain.
C'est pas énorme, 80 €. J'ai un ami qui me fait la réflexion, qui est habitué à voyager pour des matchs de foot. Bon, c'est une petite participation.
C'est un geste, quoi.
Voilà.
C'est plutôt symbolique.
N'oublions pas, Cédric, peut-être que pour l'instant, le match, on l'annonce reporté demain à 18h45, mais qu'il peut peut-être, ça peut peut-être encore évoluer. C'est sans doute la l'UEFA qui a d'abord fait cette annonce, alors peut-être en concertation avec les autorités locales, mais on se souvient qu'après l'attentat du 13 novembre au Stade de France, lors du match entre la France et l'Allemagne, 4 jours après, il y avait plusieurs matchs programmés. Il y a eu le match Angleterre-France qui a bien eu lieu en hommage justement aux victimes de cette triste soirée du 13 novembre, mais le match Allemagne-Pays-Bas à Hanovre, lui, avait été annulé, donc on peut encore imaginer éventuellement que les autorités allemandes, en fonction de la situation et de ce que l'avancée de l'enquête révélera, puissent décider que ce match n'ait pas lieu. Vous n'avez pas d'information évidemment à ce stade, j'imagine, depuis Dortmund.
Non, pas encore, effectivement, enfin d'après ce qu'on sait, en tout cas, le Borussia veut jouer ce match, ou en tout cas la majorité des joueurs vont jouer cette rencontre, notamment pour prouver en fait que ils sont pas forcément touchés par cette attaque et que la vie continue. Il y a quand même quelques joueurs apparemment qui sont un petit peu réticents, mais l'ensemble du joueur, ou en tout cas la direction du Borussia, veut jouer cette rencontre. Côté monégasque, on se pliera forcément à la décision, visiblement, d'après ce qu'on sait.
Il y a eu deux déclarations des dirigeants de ce club, le directeur exécutif Hans-Joachim Watzke, qui lui disait « Toute l'équipe est en état de choc, ce sont des images que l'on ne peut s'enlever de la tête, j'espère que l'équipe sera dans une certaine mesure en état de se présenter demain. » Et puis on a le président du Borussia, Reinhard Raibold, qui lui dit que les joueurs vont réussir à dépasser cela. Le pire, ce serait que ceux qui ont mené cette attaque arrivent à leur fin. Donc évidemment, c'est un peu problématique parce que pour des joueurs Nabil, eux, ils espèrent, ils sont là uniquement pour jouer et évidemment dans les meilleures conditions.
Moi, j'ai croisé avant d'arriver dans les locaux ici, Johan Mikou, international français, qui a joué également au Werder de Brême en Allemagne, et pour lui, en tant qu'ancien joueur, il m'a dit tout de suite sa réaction, pour lui c'est impossible de jouer. Donc alors, je sais pas ce qui va en être, parce que c'est facile, vous avez l'émotion, puis vous avez peut-être un sentiment de révolte, envie de faire face, mais il y a une petite décompression derrière, et peut-être que psychologiquement, vous n'êtes pas en réalité armé du tout, malgré ce que vous pouvez penser là tout de suite, par réaction d'orgueil.
On se souvient que les Allemands, justement, après le match face à l'équipe de France, un match qu'ils avaient perdu, ouais, où la France avait été un peu seule sur le terrain, d'ailleurs, avait dit hein, qu'ils n'étaient pas forcément en état de jouer ce match, même s'ils l'ont joué.
Il peut y avoir un petit contre-coup, c'est-à-dire que là, vous allez sonder les joueurs, il y en a qui vont vouloir faire face. Après, oui, vous avez toujours le même discours, oui, c'est donner raison à, mais là, on n'est plus, enfin, c'est pas un jeu.
Oui,
quoi.
Enfin, c'est donner raison à, on ne sait pas qui a fait ça. Hein. Il ne faut pas partir sur la piste terroriste comme ça.
Absolument
tête,
pas.
Hein.
Piste terroriste ou pas, peu importe ce qui va être dévoilé, la personne qui a fait ça n'était pas là pour faire du bien aux gens.
Non, mais ça peut, c'est pas forcément des terroristes.
Et justement, Cédric, vous avez vu ces joueurs monégasques aller un peu se défouler, on va dire, sur la pelouse de Dortmund, hein, face à des tribunes totalement vides. Et vous avez réussi à avoir la réaction de Fabinho, qu'on attendait d'ailleurs beaucoup,
le capitaine,
sur le terrain ce soir, le joueur brésilien. Alors, il s'exprime en brésilien et on va vous dire ce qu'il disait à votre micro.
Ah, uma coisa que a gente nunca espera que vai acontecer.
C'est quelque chose qu'on espère évidemment pas que ça arrive. Et on n'imaginait pas que le match serait arrêté, enfin annulé. Alors le président du club est venu nous voir et nous a même remercié d'être patient, qu'il fallait attendre des nouvelles plus précises. Il nous a dit que bon, c'est Bartra qui avait été blessé, mais apparemment c'était pas trop grave, et que le match aurait lieu demain. Le match, voilà, on n'est pas sûr d'avoir la tête à ça, mais en tout cas, il devrait avoir lieu demain.
Vous avez passé quelques années au Brésil, Andy. Hein, c'est l'occasion de le rappeler. Hein.
C'est pour ça qu'on peut comprendre ce que disait Fabinho à votre micro. Il n'a pas voulu s'exprimer en français auprès des confrères. On entend dire Fabinho en français. Cédric, les joueurs, pour l'instant, eux, vont se reposer.
Oui, bah, ils sont partis, là, ils ont quitté l'hôtel il y a une petite demi-heure. Après, justement, cette soirée qui a dû être surréaliste pour eux.
Mais
alors,
oui.
Parce que je vous dis, ils sont s'entraînés presque comme si de rien n'était, hein, comme si rien ne s'était passé. Alors, sans doute pour rester en forme, puisque, bah, il y a quand même un match à jouer, apparemment, demain. Donc, il faut pas perdre, en tout cas, voilà, c'est cette forme physique, donc, mais ça n'a pas été une séance intense, mais en tout cas, voilà, ils se sont entraînés comme si de rien n'était. Et la communication du club, c'est d'ailleurs un exploit, hein, que Fabinho soit venu s'exprimer, parce que le club ne voulait pas. Voilà.
Mmh, ouais. Bon, ben voilà, il est venu, le capitaine.
Ouais,
on
bien.
Sait que, on en avait parlé tout à l'heure en s'amusant sur le prince Albert qui devait assister au match et lui a communiqué en disant qu'il était dans la ville mais qu'on lui avait interdit l'entrée du stade. Évidemment, pour les personnalités, il y a aussi sans doute des mesures plus importantes.
Et puis, si les supporters monégasques auront l'occasion de rester sur place si le match a lieu demain, c'est l'occasion de rappeler aussi que Cédric de Oliveira, lui, va aussi rester sur place si ce match a lieu. Il sera là pour.
Écoutez, on l'espère.
Eh ben oui, Cédric, pour nous le faire vivre.
Pour voir du football.
Il
va falloir disons-le quand même, une enquête express. Et est-ce qu'on va, dissiper toutes les interrogations en aussi peu de temps?
On va le voir avec notre correspondant à Berlin qui, pour l'instant, il y a une conférence de presse en ce moment même de la police allemande et il attend en fait la fin de cette conférence de presse pour nous donner les premières indications des autorités allemandes qui, pour l'instant, ne disposaient pas d'éléments suffisants.
Est-ce qu'il y a déjà, dès maintenant, la possibilité d'avoir notre ami Pascal Thibault à Berlin pour peut-être les premiers éléments de l'enquête? Peut-être qu'il reviendra un peu plus tard s'il y en a d'autres. Bonsoir Pascal.
Oui, bonsoir. Eh bien, pour l'instant, le préfet de police de Dortmund a pris la parole pour cette conférence de presse. Il a reconnu qu'il n'y avait encore pas, bien sûr, pas beaucoup de détails à ce stade de l'enquête. Il a rappelé que 3 explosions avaient eu lieu à proximité de l'hôtel où était hébergé le club de Dortmund vers 19h15. Et il a estimé qu'il s'agissait d'une attaque ciblée contre le bus du club et non pas un accident fortuit. Des unités spéciales de la police ont été déployées immédiatement sur le terrain, des chiens, mais également des drones pour savoir s'il n'y avait pas de danger avec d'autres explosifs qui, dans les environs, auraient pu également explosé. Rien n'est exclu, a déclaré le préfet de police. Toutes les hypothèses restent envisagées, y compris la plus grave. Il n'a pas évoqué le mot terrorisme, mais c'est évidemment celle à laquelle on pense pour l'instant. Voilà ce que on peut dire au bout de quelques minutes de cette conférence.
Pas de revendication, Pascal, hein, pour le moment.
Pas de revendication non plus, non.
Pascal. Peut-être aussi que les autorités ont formulé des hypothèses, parce que on dit qu'il y a aussi eu, de par le passé, hein, des gros problèmes entre supporters ultra, notamment dans la région de la Roure.
Alors pour l'instant, il n'y a pas, encore une fois, encore une hypothèse n'est exclue, donc y compris pas une hypothèse qui serait liée à celle de milieux sportifs radicaux, mais pour l'instant, encore une fois, aucune revendication, donc on peut vraiment pas dire qu'est-ce qui pourrait être aujourd'hui privilégié.
Pascal Thibault, une chose, demain finalement l'Allemagne va abriter pratiquement au même moment deux matchs de Ligue des Champions, parce que si celui-ci est reporté à 18h45 entre le Borussia et Monaco à Dortmund, il y a aussi un match très important entre le Bayern et le Real, et c'est du côté de Munich à 20h45.
Oui, ben ce serait évidemment un hasard qui n'était pas du tout prévu. Eh oui. Heureusement, ce n'est pas dans la même région, parce qu'il est vrai que très souvent, notamment le week-end, lors des matchs de la Bundesliga, eh bien, la police allemande se plaint d'être trop mobilisée et d'être un peu débordée, et les policiers font beaucoup d'heures supplémentaires, et on aimerait parfois même que eh bien, ce soit les clubs qui payent l'addition et non pas le contribuable. Bon, Munich-Dortmund, c'est quand même quelques centaines de kilomètres, et ce ne sont pas forcément les mêmes policiers qui seront sur place pour sécuriser les deux matchs.
Mais ils seront peut-être sur les dents, effectivement, demain soir.
Un dernier mot pour le moment, Pascal, après on vous laissera réécouter un petit peu la conférence de presse de la police. Ce qu'on sait, c'est que l'Allemagne n'a pas l'habitude de plaisanter lorsqu'il y a des risques sur la sécurité. Allemagne, Pays-Bas, 4 jours après le drame qui était survenu à Paris, avait été annulé parce qu'il y avait un risque sérieux d'attentat à l'époque.
Effectivement, c'est vrai qu'on pense à ce précédent à l'automne 2015 où on avait hésité jusqu'au bout à annuler ou pas cette rencontre amicale entre les deux pays, effectivement à quelques jours des attentats de Paris. Donc c'est très au sérieux, et donc je pense que, et donc jusqu'à présent, ce qu'on entend dans les réactions également, c'est plutôt des réactions également ici en Allemagne qui saluent la façon dont le sang-froid était à l'ordre du jour pour gérer cette attaque d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Pascal Thibault, d'avoir été avec nous dans Radio Foot International. On vous laisse évidemment continuer à...
Oui, puis si quelque chose se passe, voilà. Pascal reviendra nous en parler.
Du côté de l'information. Merci beaucoup, Pascal Thibault. Nabil et Patrick, le problème, effectivement, c'est avoir la tête à ça demain. Ah bah, et je dirais même peut-être que ça peut impacter aussi l'autre match, parce que au Bayern, peut-être que avant le match, en tout cas, on sera un peu perturbé.
Bah, ça impacte tout le monde, Annie. Je veux dire, c'est l'effet papillon, dégâts collatéraux. Psychologiquement, c'est vrai qu'on avait vu jusqu'à présent des attaques. Alors, on ne sait pas la nature de cette attaque, mais en tout cas, moi, à titre personnel, mis à part des caillassages de bus par des supporters, franchement, des explosifs qui visent directement un bus où il y a des joueurs, moi, de mémoire, j'ai jamais vu ça. Évidemment, ça interroge. Et évidemment, moi, encore une fois, j'ai vraiment des doutes sur la tenue de ce match. Je trouve que c'est, voilà, ça me paraît quand même, comment dire, peut-être trop précipité. Et je pense qu'on va pas dissiper tout de suite ce qui s'est passé.
Oui, mais je pense que les intérêts financiers de l'UEFA sont tels que malheureusement, c'est pas un match amical isolé.
Je pense qu'ils vont jouer avec la vie des gens, Patrick, honnêtement, avec ce qui se passe dans le monde. Intérêt financier ou pas.
Là, tu parles dans l'absolu, je te parle de l'UEFA, moi. Je sais qu'ils ont un calendrier à tenir. Il y a qu'une semaine entre les matchs aller et les matchs retour. On sait pas pourquoi, mais là, il y a qu'une semaine. Normalement, il y en a deux ou trois.
C'est pas toujours le cas.
Donc, ça limite les possibilités de déplacer ce match. Et je pense.
Mais en dernier ressort, c'est pas l'UEFA qui décidera. Voilà. C'est quand même les autorités allemandes. Si jamais ils estimaient qu'il ne peut pas y avoir lieu. On n'est pas dans le cas
coordination, quand même.
Du bus du Togo mitraillé avant la CAN 2010 et du fait non, qu'on avait fait cette compétition, c'était déroulé normalement comme s'il ne s'était rien passé. Allez.
En tout cas, mais Monaco qui doit jouer ce week-end s'inquiète déjà de son match de samedi. Oh, donc effectivement, ça peut avoir des conséquences.
Je suis d'accord, Annie, mais bon, je préfère m'inquiéter de ma vie que d'un match de foot, quoi.
Évidemment. Ouais. Les supporters de Monaco, en tout cas, on les entend là, parce qu'ils ont été très sportifs à la fin. Ils ont su ça, ils se sont mis à crier Dortmund, et on les entend pour encourager les supporters et la nation tout entière. On se retrouve juste après la pause.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
De Deuxième partie de Radio Foot International sur RFI. Deuxième partie, toujours autour, eh bien, de cette soirée de Ligue des Champions. Ce match qui n'a pas eu lieu, un match qui a eu lieu. On a des nouvelles un peu plus précises, peut-être.
On reviendra vers Pascal Thibault tout à l'heure. C'est peut-être un petit peu trop tôt pour le moment, mais il nous confirme déjà, en tout cas, que les blessures pour le joueur qui n'a pas forcément été nommé lors de la conférence de presse, mais en tout cas, on sait que c'est supposément Marc Bartra, le joueur de Dortmund, est a priori opéré ce soir et que les blessures sont graves. Elles sont graves, ces blessures, celles de Marc Bartra. Donc on en reparlera un peu plus tard, sans doute, avec Pascal, c'est ça, lorsqu'il aura plus de précisions. Mais en tout cas, la situation est plus sérieuse qu'on ne pouvait l'imaginer au début en ce qui concerne Marc Bartra.
Et l'impact
qu'il peut y avoir sur l'équipe et sur la tenue du match demain.
Et donc sur les décisions possibles de l'UEFA, Patrick.
Une journaliste de France Inter, Fanny Le Chevesserie, nous apprend qu'une lettre aurait été retrouvée sur les lieux de l'explosion et que son authentification est en cours.
Et aucune possible revendication à venir.
Voilà.
Bah, Pascal Thibault, on reviendra vers lui d'ici la fin de l'émission. Voilà, pour en faire le point.
On reviendra vers Pascal Thibault avant la fin de Radio Foot International. Pour l'instant, eh bien, on va quand même essayer de parler un peu de football et du match de ce beau spectacle qui s'est déroulé sur la pelouse de Turin entre la Juventus et le Barça, parce que là, le match a eu lieu. Il y a eu un beau spectacle, et d'ailleurs les supporters de la vieille dame, qui eux aussi évidemment attendaient beaucoup la rencontre, eh bien, ils ont donné le ton de la soirée. Les supporters de la Juventus de Turin qui chantent ce refrain, la Juve, parce que, eh bien, il y a eu et 1, et 2, et 3-0.
Encore un très bon renversement de l'Argentin sur Cuadrado, en position forte là face à Mathieu. Cuadrado, passement de jambe, ballon pour Dybala, la frappe de Paolo Dybala. La Juve mène déjà 1-0, Barcelone piégé, le génie de la Juve parle d'entrée, 1-0. Ah, bien joué Higuain sur Pjanic, et le ballon maintenant de débordement pour Mario Mandzukic face à Sergi Roberto Mandzukic. En retrait, c'est bon, Dybala à la frappe de Paolo Dybala, 2-0 pour la Juve. Le Barça est écrasé, doublé de Dybala. Pjanic pour ce corner, Mascherano est battu, le troisième but pour la Juve avec cette tête de Chiellini. Le Barça se liquéfie, la Juve est totalement supérieure, Juve 3, Barça 0.
Une Juve totalement supérieure, un Barça qui se liquéfie. On a l'impression d'avoir déjà assisté à ce genre de match, Patrick Juillard.
Du côté du Parc des Princes, là, il y a quelques semaines.
Tout le monde pensait... Alors après, on parlera d'une possible remontada, pourquoi pas. Mais pour l'instant, ce qui s'est passé là, on a l'impression que le Barça, quand même, malgré le spectacle offert il y a peu de temps face au Paris Saint-Germain dans son propre camp, mais là, les choses ne vont toujours pas.
Les mêmes causes produisent les mêmes effets. On l'a dit, le recrutement sur certains postes a été déficient lors des derniers mercato. On l'a vu ce soir avec une défense en dessous de tout. Bon, le seul Mascherano ne peut plus à lui seul combler les manques de ses coéquipiers. Et lui-même était totalement dépassé, on le voit.
Oui,
on l'a vu sur le troisième but de Chiellini. C'est lui qui se fait complètement presque monter dessus par Chiellini et devancé de la tête. Bon, enfin, il se fait soumettre complètement. Et plus globalement, le jeu s'est liquéfié. Beaucoup des leaders offensifs de l'équipe n'apportent plus ce qu'ils apportaient. Bon, Iniesta est toujours un joueur magnifique à regarder jouer, mais il a plus du tout l'impact qu'il a sur le jeu collectif, sur le replacement de ses... Il ne dirige plus la manœuvre, en fait. Il fait des fulgurances, mais ça ne suffit plus. Et Messi lui-même n'est plus exactement. La MSN ce soir a été inexistante, quoi, globalement.
Mais ça fait deux fois quand même que la MSN est inexistante. Je pensais pas qu'elle passerait deux matchs de suite à travers. À l'extérieur, une première fois contre le Paris Saint-Germain, c'était
zéro.
On se
disait, ils auraient pu apprendre, entre guillemets, de leurs erreurs.
Là, c'est encore zéro. C'est-à-dire qu'en deux matchs, ils ont encaissé 7 buts, ils en ont marqué aucun. Qu'ils aient une défense perméable, moyenne, avec des joueurs qui n'ont rien à faire là, on l'avait compris, mais qui marquent par ailleurs. Zéro but, même s'ils se sont procurés des occasions, c'est beaucoup plus surprenant. Moi, j'ai envie de vous dire, Annie, c'est bis repetita ce match par rapport au match aller du Paris Saint-Germain. À la seule différence, Je ne sais pas si vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est que quand le PSG bat le FC Barcelone, on a l'impression qu'il y a un côté irrationnel, il y a une folie, c'est un exploit. Et là, on a l'impression que c'est quelque chose qui était presque plus normal pour une équipe comme la Juve, qui a fait juste une grosse performance.
Alors moi j'avais envie de dire, je sais pas si le Barça a mal recruté en défense, mais Radio Foot a bien fait de pas recruter en attaque avec ces deux-là. Là c'est bon, hein, il y a ce qu'il faut là.
Pourquoi Pourquoi
Bah c'est saignant quoi.
C'est saignant.
Pour le Barça.
Stéphane, c'est saignant.
Il est à Montpellier.
Il est à Montpellier.
Alors qu'est-ce qu'avait prévu le finalement l'Italie? Qu'est-ce qu'ils attendaient de leur Juventus de Turin? Eh bien on va poser la question tout de suite à Matteo Cioffi. Bonsoir Matteo.
Bonsoir, bonsoir tout le monde.
Matteo, est-ce que du côté de l'Italie, on imaginait que la vieille dame allait comme ça marcher aussi facilement sur le Barça?
Bah, disons que la Juve a envoyé dernièrement des messages très clairs, surtout avec les déclarations de son entraîneur, en disant que l'exploit était absolument à la portée de cette équipe. La Juve l'a montré aussi en championnat, elle est dans une forme exceptionnelle. Le samedi, ils ont gagné seulement 2-0 avec Chievo-Verona, mais ils ont fait, à mon avis, un des meilleurs matchs de cette saison. Et ce soir-là, on a vu vraiment la Juve dans toute sa splendeur, une équipe qui a su agresser, faire mal, et qui est arrivée à rester concentrée le long du match, tout le long du match, sans faire, disons, trop de fêtes après chaque but. Allegri, à la veille, l'avait dit, le Barça est une équipe formidable, mais qui a quelques points faibles. Il pensait à quelque chose en particulier, c'est-à-dire la défense. Cette défense Blaugrana, ce soir, à mon avis, a montré pas mal de défauts.
Oui.
De plus, jouer avec 3 défenseurs face à la Juve, c'est toujours un risque. En Italie, presque aucune équipe fait ses choix. Et surtout au Juventus Stadium, où l'équipe a joué 124 fois, et ils ont perdu seulement 4 fois, dont une fois seulement en Europe. C'était avec le Bayern il y a 3 ans.
On pensait à cette finale, tout à l'heure on en parlait dans la première partie de Radio Foot, qui a eu lieu il y a 2 ans à Berlin, et où le Barça l'avait facilement emporté. L'équipe qui a été le plus modifiée finalement, c'était la Juve, et le Barça, lui, a sombré au point de vue niveau aussi, Patrick.
Oui, Allegri avait dit cette semaine, les spectateurs qui veulent voir du spectacle, ils n'ont qu'à aller au cirque. Là, ce qui est bien ce soir, c'est qu'il y a eu le cirque et le spectacle dans le même match. Le spectacle, c'était Dybala, et le cirque, c'était la défense du Barça. Donc bon, ça c'est un petit commentaire, mais plus globalement c'est vrai que on sent que au-delà des joueurs, les joueurs passent mais l'état d'esprit reste, et l'équipe de la Juve est toujours habitée par une certaine rage de vaincre, une certaine envie de gagner, et avec parfois aussi, il faut quand même le dire, et Matteo ne me démentira pas, parfois sur certains matchs des petits coups de pouce qui peuvent l'aider. Voilà.
Le 12e joueur, on l'appelle en Italie.
Oui.
Ouais, enfin bon, là, face au FC Barcelone, ça,
non, mais pas ce soir. Hein,
ce soir. Ça compense un peu les cadeaux dont avait joui, entre guillemets, le FC Barcelone face au Paris Saint-Germain. Même si le PSG était passé complètement à travers, mais il y avait eu quand même des erreurs d'arbitrage majeures, et il faut le dire. Il y en a eu une ou deux ce soir, parfois en défaveur, plus en défaveur du FC Barcelone, mais une également en défaveur de la Juve, parce qu'il n'y avait pas hors-jeu sur un des buts de nos amis
exact.
Italiens. Moi, je trouve, bon, j'ai été les voir au Juventus Stadium cette saison, c'est une équipe fantastique, qu'Allegri a bien modelé. Finalement, elle s'est dépeuplée de 3 joueurs qui ont été à un moment donné Vidal, qui était hyper important au milieu de terrain, Pogba, il faut le rappeler également, qui est parti à Manchester United, Tevez, elle a su se recréer, elle a su se réinventer autour de Dybala et de Higuain, et également l'astuce, ouais, le doublon Pjanic qui dira, mais surtout l'astuce, et c'est là où tu vois en fait que ça sent bon pour eux, c'est quand tu as un mec comme Mandzukic qui est à la cave, hein, qui est annoncé à l'OM par ailleurs, mais j'y crois moyennement, qui est replacé dans un 4-4-2 à gauche, ou dans un 4-2-3-1 à gauche, qui fait des efforts défensifs monstrueux, alors que c'est un joueur de fixation et de pointe, et quand tu vois un joueur se réinventer dans un nouveau rôle et être dans ce rôle-là, alors que c'est pas son rôle au départ, ça veut dire que tout le monde tire dans le même sens, y compris
les pousses de projet voilà, de l'entraîneur.
Y compris ceux qui, en fait, ne jouent pas réellement à leur poste et ont eu, à un moment donné, un statut d'avant-centre presque star à la Juve.
Matteo, celui qu'on a tous vu ce soir, et peut-être que c'est le successeur du fameux grand quintuple Ballon d'Or Messi, c'est un autre Argentin, et c'est Paolo Dybala qui a régalé et qui a marqué 2 buts incroyables. D'ailleurs, il se permet même, l'entraîneur, de le faire sortir avant la fin du match.
Oui, une ovation, une juste ovation pour la prestation de ce soir. Parce que ça a été vraiment la grande soirée de Paul Dybala, nommé la Joy, la gemme, un vrai diamant.
Oui.
Et nous, en Italie, bon, on est habitués.
Le joyau.
Ouais, les joyaux, alors. Nous, en Italie, on est assez habitués à le voir jouer. On connaît son talent, on apprécie sa façon de jouer. Mais je crois que ce soir, l'attaquant argentin s'est fait vraiment connaître aux yeux du monde entier. Et il y a une drôle de sensation on a eu ce soir, qu'il y avait presque un relais entre lui et Lionel Messi.
Il a raison.
C'est Matteo, vous avez totalement raison. Paolo Dybala a été annoncé aussi du côté du FC Barcelone. C'est une pépite qui a été recrutée comme Pastore à Palerme, parce que c'était Palerme, c'est une équipe qui recrute bien, et notamment en
une
Argentine.
Porte d'entrée.
Il a des appuis courts, il est rapide.
C'est bizarre, c'est moins cher qu'André Gomes.
Ah oui, André Gomes du FC Barcelone, c'est
il
une véritable.
Il sera peut-être très cher plus tard.
C'est une véritable arnaque. Oui, oui. Non, si, 35 millions plus 35 millions d'euros de bonus. Déjà, j'ai jamais vu un transfert à Nîmes avec 35 millions d'euros de bonus, donc c'est complètement surréaliste. Et Dybala aujourd'hui sur le marché, c'est 100 millions. Si une des équipes le veut, le Real ou le Barça, c'est 100 millions.
Palerme l'avait acheté 12 millions, l'a revendu 32 à la Juventus, c'est 100 millions aujourd'hui.
En gros, il triple son prix à chaque transfert.
Voilà, il était quand même très attendu ce soir, Matteo, et il a été au rendez-vous.
Il a été au rendez-vous. Encore, je me rappelle, il y a 2 ans, quand la Juve l'avait recruté, ils l'ont payé 32 millions plus 8 millions de bonus. Et tout le monde s'étonnait, disait, mais qu'est-ce qu'ils font, la vieille dame, elle est complètement cinglée de payer un joueur qui n'avait même pas... qu'est-ce qu'il avait? Il avait 21 ans, pour payer 40 millions à un joueur qui venait en plus d'une équipe, disons, moyenne comme Palerme. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, le prix de Paul Dybala, c'est quoi? C'est le double de ce que au moins, c'est le double de ce que la Juve l'a payé.
Ah bah non, mais attendez, vous êtes gentil.
Il peut
battre. Très sincèrement, je préfère avoir Dybala dans mon équipe que Pogba. Hein. Non, mais je vous le dis honnêtement, Matteo.
Ils ont vendu Pogba parce qu'ils savaient qu'ils avaient Paul Dybala en équipe. Hein.
Ouais, non, mais il est.
Pogba, il a quitté la Juve parce que Paul Dybala était.
Ouais.
Était
Matteo, on vous perd.
Ouais.
Oui, vous êtes là.
Voilà. Matteo, j'étais en train de dire que la Juve a vendu Paul Dybala parce que elle a vendu Paul Pogba parce que Paul Dybala, il s'appelle tous les deux Paul en plus.
Oui.
il savait d'avoir Paul Dybala. La pépite, elle était là.
Elle était là, elle est à la Juve.
Voilà. On a eu l'impression aussi ce soir que Messi le regardait jouer, Patrick.
Ouais, Messi, je pense qu'il était un petit peu désespéré par le comportement global de l'équipe.
Pas lui seulement, Neymar, on voyait sur son visage aussi beaucoup de désespoir.
Neymar qui est retombé un peu dans une mauvaise passe puisqu'il a appris qu'il serait suspendu pour le Classico. Mmh. Là, donc, ça
fait 3 matchs.
2 mauvaises nouvelles en une journée, ça fait beaucoup pour lui. Et Messi, c'est vrai qu'il m'a donné l'impression, notamment sur les buts, d'être un peu comme une âme en peine, de se demander ce qu'il faisait là. Et ça sent pas très bon pour la fin de saison du Barça, qui avait encore une carte à jouer en Liga quand même, hein, et qui a perdu gros en perdant à Malaga.
Ah,
et
leur joker, c'est durant le week-end, ils l'ont bien.
Il va falloir gagner le Classico pour y croire. Et vu l'état d'esprit de l'équipe actuellement, ça va être très difficile à Bernabéu,
ça risque d'être compliqué.
C'est pas coton.
En tout cas, vous dites qu'ils avaient une drôle de tête, Messi et Neymar. Eh bien, on peut aussi écouter Luis Enrique, l'entraîneur du Barça, parce que quand la question lui a été posée de qu'est-ce que vous avez pensé du match, écoutez sa réponse d'abord.
En première mi-temps, nous avons été clairement inférieurs, la Juve dominante. Et en deuxième période, on était au niveau de cette rencontre, au niveau de ce quart de finale. Il y a eu des occasions claires que nous avons eues. Le problème, c'est qu'on a encaissé des buts et donc ça a compliqué la situation. Il va falloir une nouvelle remontada, la deuxième de suite. Il faut analyser ce match. Il faut réfléchir, c'est clair qu'on s'est trompé, notamment en première période. Donc il faut en tirer des leçons et puis et revenir au score. Alors oui, c'est la deuxième fois que ça nous arrive. Donc il y a un vrai problème, c'est clair, et il va falloir surmonter ce problème. Alors oui, bien sûr, c'est possible, c'est clair. Alors peut-être pas tout de suite, pas dans l'instant, mais c'est sûr que nous allons essayer de redresser la barre.
Ouais, redresser la barre, hein, bah on le sait, du côté du Barça, ça veut dire remontada. Mais signalons que Bonucci, avant le match, avait déclaré en conférence de presse qu'aucune équipe italienne n'aurait perdu 6-1 à Barcelone.
Alors, si on prend les statistiques, la Juve n'a jamais été éliminée en Coupe d'Europe après avoir gagné 3-0 chez elle au match aller. Donc, ce serait...
Il y avait plein de statistiques qui disaient 4-0,
oui, oui, oui.
Ça pouvait suffire.
Ce serait une vraie première pour le Barça, qui par contre s'est déjà qualifié 3 fois après avoir perdu à l'aller 3-0, mais c'était contre Ipswich, Göteborg et Anderlecht, donc c'est pas le même niveau que la Juve. C'était dans les années fin 70, début 80.
Ils ont les joueurs pour mettre sur un match, peu importe la défense au monde, enfin sur un match, hein, ils ont les joueurs pour en mettre 4, 5, 6.
Oui, mais
ouais, même si t'as Chiellini.
En mettre 4, 5, 6, ils peuvent, mais sans en prendre, c'est autre chose.
Non, mais j'allais en venir là, mais le problème, c'est que c'est pas l'entraîneur, en fait, qu'il faut changer dans cette équipe. Alors, je sais qu'il est en fin de cycle, mais c'est derrière.
Ah, bah, il s'en va, de toute façon, non, il l'a dit.
Non, mais je veux dire, le problème du FC Barcelone, c'est l'équilibre,
et l'animation. Gardien compris, d'ailleurs.
C'est un drame, Annie, c'est un drame, je veux dire.
C'est vrai qu'on voit pas seulement une déliquescence sur les visages, on voit une déliquescence aussi de l'équipe.
Ah oui, non, mais.
Ter Stegen, ce soir, son premier arrêt, c'est à la 43e minute. Avant ça, il prend 2 buts.
Messi, il le sait. Messi, Neymar et compagnie, ils savent très bien qu'ils peuvent... Alors, ça se trouve, ils mettront 1, 2 buts, pas plus, ou ils en mettront pas du tout. Ils savent très bien qu'ils peuvent mettre des buts, mais c'est comme l'équipe d'Algérie, quand je discute avec les gars, ils savent très bien qu'ils marquent, mais dès qu'ils se retournent, 2 minutes plus tard, ils en ont pris 1. Non, mais ça vous coupe les jambes. Non, mais... c'est la réalité. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'ils ont un secteur défensif. Ils ont laissé partir Daniel Alves. Excusez-moi.
Qui est dans l'équipe d'en face.
Ouais. Et regardez comment il a été bon. Surmotivé ce soir. Il a mis en grande difficulté Neymar, qu'on a très peu vu, qui a été transparent. Voilà la réalité aujourd'hui du FC Barcelone. Le chantier du FC Barcelone, on le connaît. Il travaille déjà en partie dessus. C'est de reconstruire une équipe défensivement. C'est aussi de trouver d'autres solutions au milieu de terrain et de trouver des solutions alternatives à ce qui a fait leur rayonnement absolu Xavi, Iniesta. Ils ont fait une mauvaise pioche à l'intersaison avec André Gomez. Et donc il y a pas que le PSG qui se fait arnaquer avec Krychowiak, il y a aussi le FC Barcelone qui peut se tromper et qui peut être à la solde de certains agents qui ont réussi à faire un bon coup. C'est dans ce secteur-là qu'il va falloir travailler, c'est dans ce secteur-là qu'il va falloir aller chercher des joueurs et quid également des trois devant.
Alors, MSN, il n'y a pas de remplaçant. Ouais, quand il manque la MS ou N, il n'y a pas de joueur de niveau même approchant, quoi.
Et oui, mais on se souvient quand même de certains matchs où quand Messi était pas là, c'était Neymar qui marquait beaucoup. Quand c'est Neymar qui est moins bien, c'est Suarez qui marque beaucoup. Je pense que le problème, il est peut-être pas du côté des attaquants. Non, le problème, il est de les alimenter en
c'est
ballon
et globale,
puis c'est
en fait.
Et puis c'est l'arrière surtout. On le sait depuis quelques temps.
Non, mais oui, ils pressent. Hein, Messi, Neymar, parfois ils mettent un peu d'influx, mais derrière, vous avez vu les largesses défensives, les 1 contre 1, ça passe. Sergi Roberto à droite. Non, mais il y a un moment, faut arrêter, quoi. Fic à Dijon, il est pas en dessous.
Moi, j'ai vu Cuadrado à droite.
Ouais. Matteo, pour terminer, est-ce que du côté quand même de l'Italie, cette remontada, ça fait un peu peur, la remontada, évidemment, vécue aux dépens du Paris Saint-Germain.
Bah, écoutez, je vous dis qu'est-ce qu'il vient de déclarer Massimiliano Allegri. Il a dit que bon, ce soir, c'est seulement un premier pas vers la qualification. Mais il a aussi ajouté que son équipe a fait vraiment un match formidable. Ils ont été impeccables. Il a remercié les défenseurs et ses attaquants qui sont revenus donner un coup de main aux défenseurs. Il a voulu vraiment souligner le grand collectif de son équipe. Donc le moral est vraiment très haut. Si vous me posez la question, est-ce que la remontada est possible? Je ne sais pas quoi répondre. Ils l'ont demandé aussi à Luis Enrique si la Juve est plus forte du PSG. Il a répondu, on le verra dans une semaine. Donc tout est possible avec le Barcelone, qui est certainement une équipe qui fait de l'astuce aussi son point fort. Mais la Juve, il ne faut pas oublier que c'est aussi la meilleure défense de cette Ligue des Champions. Ils ont encaissé seulement 2 buts. Il faudrait en encaisser 4 là à Barcelone. Sans marquer. Donc
La différence entre la Juve et Matteo, la différence entre la Juve et le Paris Saint-Germain, c'est que les défenseurs de la Juve, c'est les défenseurs de l'équipe d'Italie, ils se connaissent bien et surtout mentalement, ils n'ont peur de rien. Alors que du côté du Paris Saint-Germain, ça a transpiré dans tous les sens.
Matteo, une dernière petite chose, une image amusante et intéressante, c'est l'accolade qu'il y a eu en fin de match entre un certain Chiellini et un certain Suarez.
Oui, en effet, j'ai souri quand j'ai vu cette image-là parce que bon.
Voilà, Suarez, rappelons-le, qui avait mordu devant les caméras du monde entier.
Ah, il y en a qui ça.
En effet, Suarez, à la Coupe du Monde au Brésil. Le pistolet. En Italie, on l'appelle toujours le requin. Hein. On n'a pas changé en Italie à l'appeler le requin. Non, je suis content pour. Honnêtement, je suis content pour Chiellini parce que pour lui, c'est vraiment une revanche. Il n'avait pas joué la finale il y a 2 ans à Berlin parce qu'il s'était blessé. En plus, il avait, comment dire, cet accrochage avec Suarez. Il voulait.
Oui, il l'avait disculpé un peu à l'époque.
Fois. Mm-hmm. Et ce soir, il a même marqué. Donc, je crois que pour lui, ça a été vraiment une soirée incroyable. Et je suis vraiment content pour lui parce qu'à la fin, il le mérite.
Bah, nous, on est contents pour vous.
Merci beaucoup, Matteo, d'avoir été en direct dans Radio Foot International. Et donc, on se retrouvera eh bien, la semaine prochaine parce que cette Juve, on va voir comment elle se prépare pour ce match retour au Camp Nou dans 8 jours. Merci Matteo, à bientôt.
Merci à vous. À la prochaine, je vais commencer à apprendre le chinois à partir de jeudi.
Oui, je sais pourquoi on en parlera des Chinois qui s'installent à Milan, au cœur de l'équipe qui vous intéresse tant, au cœur de l'AC Milan. On va retourner tout de suite du côté de l'Allemagne, du côté de Berlin. Pascal Thibault avec vous parce que on le signalait, on avait vu cela sur les réseaux sociaux au cours de l'émission. Apparemment, il y aurait eu une revendication, en tout cas un document, une lettre qui aurait été retrouvée.
Effectivement, lors de la conférence de presse qui s'est achevée il y a 10 minutes à peu près, on a donc appris qu'une lettre avait été retrouvée, une lettre revendiquant l'attaque contre le bus du club de Dortmund, même si la représentante du parquet n'a pas voulu en dire plus sur son contenu, précisant qu'il fallait d'abord prouver, vérifier plus exactement l'authenticité de cette lettre. Donc on reste pour l'instant encore un peu sur sa fin. En tout cas, ce que l'on a appris à travers le préfet de police de Dortmund qui participe à cette conférence de presse, c'est qu'il s'agissait d'un attentat visant directement le bus de Dortmund, donc un accident fortuit qui paraissait de toute façon plutôt exclu. Eh bien, ce n'est pas ce qui s'est déroulé. Pour l'instant, les autorités n'excluent aucune piste, y compris la plus grave, pour citer le préfet de police, qui a évité d'utiliser le mot terrorisme, auquel bien sûr beaucoup pensent. Et donc l'enquête va se poursuivre. On a également appris que le match qui se déroulera demain soir, eh bien, fera l'objet de mesures de sécurité sensiblement renforcées.
A priori, il aura donc lieu, hein, c'est ça, Pascal. Oui.
En tout cas, pas de démenti. En tout cas, des autorités allemandes, si démenti il devait y avoir, ce pourrait être, bien sûr, soit du club lui-même, ou bien effectivement les autorités de police, si elles estimaient que la sécurité ne pouvait pas être garantie. Mais en tout cas, pour l'instant, on annonce des mesures de sécurité supplémentaires, donc un match à sécuriser. Ah ouais.
Oui. Et pour revenir sur cette lettre de revendication, elle a été retrouvée sur les lieux de l'attentat, c'est ça, Pascal?
Ou... Elle a été retrouvée à proximité des lieux de l'attentat. On ne nous a pas dit exactement où, mais enfin à proximité donc de l'endroit où le bus a été victime de ces 3 explosions.
Merci beaucoup, Pascal Thibault, de nous avoir apporté ces précisions dans Radio Foot International. Et évidemment, on continuera à suivre grâce à vous sur RFI les suites de cet acte pas banal contre un bus de joueurs et avec un blessé. Et justement, on en sait un petit peu plus sur la blessure de Marc Bartra.
Des nouvelles de la santé de Marc Bartra. C'est plus grave que ce qu'on avait dit au départ, mais c'est moins grave que ce qu'on a pu imaginer. Il a bien été opéré, ou en tout cas, il est en train d'être opéré d'une fracture du radius dans le poignet droit. Apparemment, là, il y a la présence d'un corps étranger. On peut imaginer que c'est l'un des éclats de verre ou des éclats de verre de la vitre brisée.
Le radius, c'est le poignet, pour préciser.
Oui, je l'ai dit, je crois, dans le poignet droit.
Parce que je me suis déjà cassé le radius,
vous êtes cassé
c'est pour
le,
ça.
Le cubitus, c'est d'ailleurs.
Et le coude aussi.
Voilà. Bah oui, ça fait beaucoup.
Ouais. Bah pour lever de coude, ça peut être ennuyeux.
Oui. Bon, messieurs, en tout cas, demain soir, on aura une soirée de Ligue des Champions, théoriquement. Alors, cette fois-ci avec 3 matchs, espérons que tout se passera normalement autour des stades et dans les stades et notamment eh bien du côté de Dortmund, mais on aura aussi un Bayern-Real, Atlético Madrid-Leicester. Que peut-on dire sur ces matchs en quelques secondes, Patrick
Juliard ?
En une minute,
Bayern-Real, c'est un vrai gros test pour le Real Madrid, puisque l'an passé, le Real avait atteint la finale avec quand même des tirages relativement cléments. Là, ils sont servis, au contraire, avec une équipe qui est une prétendante directe au titre sans se cacher, quoi.
Grosse équipe sur le chemin en quart de finale.
C'est je trouve que le quart Atlético Leicester, contrairement à ce que certains disent, qu'ils le prennent un peu de haut, je trouve qu'il est très intéressant parce que finalement, l'Atlético étant moins souverain défensivement que l'année dernière et Leicester ayant retrouvé vraiment une sorte d'euphorie depuis le...
5 victoires, une défaite avec une équipe bis. Hein.
Voilà, le départ de Ranieri, je pense qu'il est plus ouvert que ce qu'on a pu dire au départ.
Non, mais pas mieux que Patrick. Je suis très curieux de voir ce Bayern-Real. On a l'impression quand même que la dynamique est plus favorable au Bayern, parce que le Real est parfois ballotté, même s'ils sont en tête de la Liga.
Et le Bayern reste sur une superbe victoire face à Dortmund.
Tout à fait. Alors, et pour l'autre match que je suis avec attention, l'Atlético Madrid va être obligé, fera beaucoup plus le jeu qu'elle ne le fait d'habitude, puisque Leicester, c'est une équipe un peu miroir, toute proportion gardée. C'est une équipe qui joue en bloc bas et qui se projette rapidement avec Albrighton, Mahrez et Vardy en pointe, et Okazaki s'il joue en deuxième attaquant. On a noté l'émergence de l'international nigérian
Ndidi, excellent.
Plutôt pas mal ces derniers temps. Pour Leicester, il va falloir essayer de conserver ses chances, comme ils l'ont fait face à Séville le tour précédent, où ils avaient été battus 2-1 alors qu'ils auraient dû en prendre 4. Ils sont finalement qualifiés au match retour. L'Atlético Madrid a intérêt quand même à plier l'affaire dès demain. Ils ont les qualités quand même pour le faire.
Et puis quand on a un coach qui s'appelle Shakespeare, on peut écrire l'histoire, non ? Ou une tragédie, un drame, enfin une belle pièce, quoi.
Ouais. Pour ce qui est Leicester, bien sûr.
Oui, Leicester. Hein. Greg Shakespeare qui a remplacé donc Claudio Ranieri.
Ah, c'était William.
Tiens, Claudio Ranieri, pour la petite anecdote, Annie, puisqu'on est en radio sur Africaine, il y a 48 heures, il a refusé la sélection algérienne. Voilà,
pour belle info.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce Radio Foot International. Merci à tous ceux qui nous ont aidés aujourd'hui dans cette émission particulière, et notamment David Finzel et Richard Rifono, qui étaient à la réalisation. À demain.